Madeleine et Pierre, ensemble jusqu'à la fin des mondes. Anne Lecourt a pris la plume pour donner parole à nos mères et grand-mères, ainsi qu'il est raconté dans son portrait. Comme en prolongement de ce dernier, elle a accepté de partager avec les lectrices et lecteurs d'Histoire ordinaire le récit de vie de Madeleine. Dans la préface de son livre « Les discrètes, paroles de Bretonne », Anne Lecourt explique ainsi comment elle aborde ses rencontres. Peut-être une bonne façon aussi d'entrer dans ce récit. Guetter le tout premier frémissement, apprendre la patience, saisir l'instant, encourager d'un regard. Observer, retenir, laisser venir. Un voile dans la voix, la crispation d'une lèvre, l'irritation d'une tasse vite reposée, une bouche qui se cache pour sourire, l'ébauche d'un geste, une main qui corrige, qui écarte ou qui retombe sans rien livrer. Maman était épicière. On disait « je vais chez Prudence » faire les commissions. Elle cousait aussi, confectionnait les parures de lit et les robes de mariée. J'adorais jouer à la balançoire dans les draps neufs. Dans le magasin, il y avait plein de choses à manger et puis tout un bric-à-brac d'objets. Je me souviens du bac à sel tout suintant d'humidité. On vendait le sel en vrac. Des articles de quincaillerie, du tissu, du fil et des boutons, des casseroles brillantes et de la vaisselle emballée, des garde-manger, des chaussons. Maman faisait griller le café dehors sur la rue. C'était long, ça lui permettait de lire, elle adorait ça. Elle venait du côté de Chavagne, d'une famille de 10 enfants, si pauvres qu'ils dînaient d'un hareng pour 3. Septembre 1939, un monde entre en guerre. Bris d'images, tocsins, piaillements des plus petits, tirés, ballottés, sans ménagement, ricochets de voix tremblées sur les façades de pierre. L'ordre de mobilisation placardé, des visages adultes flottant au-dessus de la fillette, tendus, déformés, méconnaissables. Son père avait fait la Grande Guerre. Il s'était trouvé enterré après la chute d'un obus tombé tout près. Il en avait gardé des séquelles, un éclat mystérieux, dans le dos, croyait-elle savoir. Madeleine Boujard se souvient, elle a 9 ans, et aussi comment ses parents, ne la trouvant pas lorsque les Allemands étaient entrés dans Talensac, s'étaient mis à crier après elle et dans leur affolement l'avaient giflée au sortir des toilettes où elle rêvassait, ou peut-être même pas. Images de soldats à la maison qui viennent faire leur popote, cuire les œufs du matin par dizaines, un officier souriant à qui l'on a donné sa chambre. La famille entassée dans l'étroite bâtisse de pierre violette au cœur même du bourg, la fillette envoyée dans le lit de la bonne, le tout serré dans la grande chambre des parents. Après un toit, ils avaient réquisitionné les vélos, n'avaient récolté qu'une poignée de vieux clous aussi dignes qu'enrouillés. Les beaux étaient à l'abri. Le père Boujard, d'ailleurs, avait pris les devants et démonté les jantes de la Mona 4, au moins une que les Boches n'auraient pas. C'était prétendu dépouillé par les Allemands d'avant cela. « Ce sont vos amis qui m'ont tout pris », avait-il expliqué à grand renfort de gestes et parlant fort comme si les autres étaient sourds. Il était charron et faisait le cidre. Son atelier, non loin du cimetière, un jardin pour ses légumes, une passion pour les montres. Les Allemands s'étaient installés dans l'église pour dominer le pays. 2 chambres dans les combles du vénérable édifice. Dessous, le beau pays de Talensac, comme un tapis est déroulé. En pleine ligne de mire, images d'uniformes en bleu et vert de gris fréquentant le casino, une maison dans le bourg où jouer, se divertir avec des femmes, des Françaises, le soir. Et cela, plein de rires et de vin qui mène grand tapage jusqu'à pas d'heure. Couvre-feu pour les autres. Une prison aussi, très organisée, ces gens-là, aménagée dans une cave pour leurs mauvais soldats. Le château de Maintain pour les plus méritants. La municipalité française courtoise et partagée. On ne sait pas toujours de quel côté de la guerre se mettre. Les autres sont laissés tranquilles, mais l'école publique, elle, est occupée. Les garçons et les filles de l'assistance ne sont retranchés dans un grenier à la Lande, route de Saint-Péran, avec l'instituteur qui s'accroche à ses ouailles. Annick, sa fille, la grande copine de Madeleine, des affamées de lecture toutes les deux. Eins, zwei, drei, vier, Madeleine apprend à compter, observe, enregistre, fascinée. Elle est curieuse, Madeleine, elle a le goût du savoir, récite sur le bout des doigts des pages entières des livres de la bibliothèque alignés au presbytère. écoute la radio, très vite se forge une opinion personnelle, tient tête à son père, qui n'aime pas l'école, et l'a près du bonnet. Mon père, quand il se mettait en colère, il montait dans ma chambre pour déchirer mes livres. Il disait que ça me donnait de mauvaises idées, que ça finirait mal. Heures crispées, images de réfugiés, indigents, dénués, dispersés sur la commune. Certains venant de Rennes, d'autres de Paris. Parmi les Français, les mouchards, climat de méfiance à l'épicerie. Madeleine se souvient de certaines femmes venant faire leur commission et du même coup répandre certains bruits, se plaindre de certaines choses, mine de rien, critiquant l'occupant, histoire de sonder. La mère de Madeleine était très prudente, surtout tiens ta langue, disait-elle à sa fille. Oui, un petit nombre était bien avec l'occupant. Commerce en tout genre, certains plus laids encore que d'autres, sous le manteau, dans les châteaux. Le marché noir, comme un fait obligé, fleurissait partout autour des fermes. La faim épargnant les campagnes et ravageant les villes. Certains partis nourrir Paris, quelques-uns faisant leur beurre de la guerre, d'autres y laissant leur peau ou leur honneur. C'était le temps des semelles de carton dans les chaussures, des bons de rationnement, des colis de prisonniers. Chez les Boujards, dans les faux plafonds, le père entasse la marchandise, peur de manquer. Dans un tournant de la guerre, la petite Madeleine se souvient, stupéfiée, d'un homme prostré qui pleure dans ses mains et qui plie face à l'histoire jouée au loin. C'est l'officier allemand, l'homme souriant qui dormait dans le lit de fer de la fillette. Il explique à la famille, le petit garçon, qu'il ne verra pas grandir. Il part demain pour le front russe. On disait de Pétain qu'il était vendu aux Boches. On ne savait rien de la résistance. On s'en méfiait presque autant que de la milice. Comment savoir ? On était triste, on avait peur. Peur des Français, de la spirale mortelle, dénonciation, emprisonnement, torture et mort. On se souvient d'un corps supplicié ramené à Talensac, celui d'André Leclerc, chef de la résistance. Il y en a eu d'autres, nombreux, hommes et femmes, à périr par cette milice enragée aux ordres d'un certain Schwaller, à Rennes, à Fougères, à Mordel, à Talensac. Après le débarquement encore, image trouble de la libération. Règlement de compte dans les campagnes, certains règlements, certains comptes. Désordre et pulsion. Un milicien rasé, une femme qu'on veut tondre. Et puis l'après 45. Les Allemands prisonniers dans les fermes. Tout le jour et par tous les temps dehors, cassent des cailloux, construisent nos routes, effacent les vieux chemins de terre. Vainqueurs et vaincus tirant la même charrette, trimant pareillement. Visage dur, corps harassé, noir de crasse, lampé de cidre à même la bouteille, paillasses enfiévrées, sueurs jumelles. La guerre est finie, Madeleine a 15 ans. Madeleine n'a pas eu son certificat d'études. Elle n'est pas devenue institutrice comme elle en rêvait. Elle n'a pas suivi Annick au lycée rue Marteneau à Rennes. Elle a espéré jusqu'au bout. Mais son père, dont le métier accusait le coup sous la pression de la mécanisation, a décidé qu'elle resterait au magasin auprès de sa mère. Tu crois pas qu'on va payer une employée pour faire le boulot, non ? Il venait de perdre sa fille aînée, la sœur de Madeleine, emportée à 21 ans par une fièvre infectieuse, complication ordinaire d'un accouchement de ce temps-là. Une douleur sourde, un chagrin envenimé le rongeait en dedans, qu'il promenait partout avec lui, un autre désormais. Année 50, un monde est à faire. Madeleine a quitté l'épicerie pour se marier à un marchand de cochons. Elle est partie vivre avec lui chez sa mère, à 2 kilomètres du bourg de Talensac. Elle a continué ses lectures contrariées, puis elle a donné le jour à un petit garçon, a materné pendant 2 ans, et puis, dans un sursaut, un besoin pressant de vivre et de bouger, elle a grimpé dans le camion avec son mari. Mon mari voulait pas au début. Moi, je ne tenais plus en place chez ma belle-mère. 21 ans, on a vécu chez elle. Je n'avais pas demandé à venir, moi. Je ne voulais pas me marier d'abord. Et puis, au champ Picot, il n'y avait pas l'électricité, je voulais un frigidaire. « Je suis chez moi », répondait ma belle-mère. Oh là là, ça pétait des fois. Elle était têtue, moi aussi. Alors j'ai mis des pantalons et j'ai suivi mon mari dans son métier. On peut dire que j'en ai bavé, à en pleurer. Mon premier jour, c'était une foire à Bruns. Pierre me dit « Ben vas-y donc, va la voir la bonne femme, demande-lui combien elle en veut ». Les porcelets pesaient 25, 30 ou 35 kilos. Fallait savoir apprécier, négocier, marchander, chipoter, comme on dit dans le métier. J'avais horreur de ça. Moi, je venais d'un monde où un prix était un prix, point. À l'épicerie, on calculait sa marge et on n'en démordait pas. Je restais là à danser d'un pied sur l'autre, j'avais presque honte. Madeleine apprend le commerce des bestiaux. Pierre est bon acheteur, il est réputé pour la qualité de ses choix. Madeleine est bonne vendeuse, elle calcule tout. Pierre aurait donné. Ils forment une bonne équipe. On avait un petit numéro bien rodé. Pierre me poussait devant, j'allais d'abord, je demandais au vendeur combien, puis je tournais le dos, je m'en allais en faisant mine de pester assez fort pour qu'il m'entende. « Ah, vous n'en voulez pas à tel prix ? Eh bien, c'est bien dommage. » Et puis mon mari, plus loin, passait derrière moi pour faire baisser le prix. On finissait par user le vendeur à force. Parfois, notre fils Pierrick s'y mettait aussi. C'était drôle. Des fois, on était reconnus, le vendeur rigolait. « Dis donc, toi, le père est déjà passé !» Avec le temps, Madeleine s'enhardit, le fils se prend au jeu et toute la famille fait son théâtre très à l'aise. Ils achètent sur les foires, les marchés et puis revendent, déchargent dans les fermes des cochons à élever et en échange embarquent des porcs à destination de l'abattoir. Partent de nuit, rentrent de nuit, jouent les intermédiaires, se payent sur les transactions, montent des bestiaux en gare de Montfort ou de Rennes, les descendent à Paris dans les Yvelines. Le travail est harassant, les déplacements quotidiens. Auray, Bubry, Rosporden, Quimper, Guéméné, Scorff, Vire. À chaque wagon SNCF rempli, il touche un billet de transport gratuit. L'abattoir réglait aux clients et nous, on avait une commission de 10%. Des fois, mon mari m'appelait à 4 heures du matin pour me dire « Si j'ai pris trop de petits veaux, rejoins-moi avec l'autre camion. » Je devais partir toute seule, dans la nuit, dans le brouillard, sur une route que je ne connaissais pas. Fallait être solide. J'ai pleuré souvent. Et les cochons, ça peut être fragile. De la casse, il y en a eu. Surtout avec les landrasses ou les piétrins, vulnérables sur le plan cardiaque. Ceux-là, il fallait les saigner parce qu'ils souffraient. Madeleine raconte comment la terreur la prenait lorsqu'elle les entendait dans le camion qui commençait à crier. Elle ne voulait pas croire, elle n'était pas sûre, cherchait comment contourner le problème. Mais il fallait bien prendre une décision. Rapidement, elle était toute seule avec son angoisse qui montait. Bien obligée de régler ce type de problème, précisément. Comme cette fois sur le quai de la gare de Montfort. Madeleine parle toute seule en faisant les 100 pas, le cochon n'arrête pas de crier. Elle a déplacé le wagon déjà à cause du soleil, il ne faudrait pas qu'il crève là-dedans à cause de la chaleur, c'est une vraie fournaise lorsque le soleil donne sur la tôle. Avec sa barre de fer, elle a l'habitude, elle la coince sous la caisse, s'arc-boute et se suspend de tout son poids, 50 kilos à tout casser. Lentement, le wagon avance. Elle ne supporte plus les cris du cochon qui lui tape sur les nerfs, lui donne la nausée, ni la transpiration qui mouille sa chemise, ce train qui n'arrive pas, Pierre toujours à travailler au loin. Elle pousse la porte du buffet de la gare, complètement retournée, demande un couteau, très tranchant, précise-t-elle, et puis revient au wagon, coince sous elle le cochon pour que sa tête déborde à l'extérieur, cherche comment s'y prendre, essaye de se souvenir des gestes qu'elle a vu faire, le cœur battant, donne à l'aveuglette un coup de couteau sous la gorge de l'animal, surpris. Une fois, deux fois, trois fois, le sang, les cris, elle essaye encore et encore, il ne veut pas se taire, le sang, les cris, la tête qui pend. Elle est toute seule, défaite, empoissée, les gars de la gare, les mains enfoncées dans les poches en connaisseur. C'est pas de peau, il n'y avait qu'à faire ça, et ça c'est pas de peau. Madeleine s'essuie les mains, le front, Madeleine se reprend, Madeleine apprend à se faire une place respectée. Elle passe à vite son permis de conduire. Elle a roulé sans un certain temps, mais bien moins longtemps que Pierre. Les gendarmes ont attrapé son mari bien des fois. Il envoyait Madeleine leur causer, elle devait mentir, prétendre qu'on avait perdu le fameux papier. Les gendarmes n'insistaient pas. Au bout d'un certain temps, la jeune femme roule seule dans son camion avec jusqu'à 100 petits cochons ou 60 gros à l'arrière. Avale les kilomètres par centaines en fumant des cigarettes en secret. C'est lourd à manœuvrer à un bahut pareil, c'est dangereux quand la route est mouillée ou boueuse, elle croit verser plusieurs fois. Un jour, dans une courbe du côté de Paimpon, elle a Pierrick avec elle. Ses jambes et ses bras tremblent tellement, elle se cramponne au volant, elle sent le camion partir dans le virage. Il est très chargé, il chasse, mais tient. Il tient à un cheveu. Elle baisse la vitre, sourit à son garçon, respire un grand coup. Chaque jour, pendant des heures, elle charge et décharge ses porcelets à la main. Quand elle rentre et qu'elle a tout vendu, elle s'inquiète au début des grosses sommes d'argent qu'elle transporte à vélo moteur depuis les chèques postaux de Rennes. Elle a cru parfois qu'on allait la dépouiller, des types en auto qui l'attendent, la dépassent, font un bout de chemin. Elle l'a dit à Pierre, « Il ne faut plus faire comme ça, j'ai peur. » Et puis cette autre fois aussi, elle en rit encore, Madeleine, la plaine de Beau, le triage de la gare de Rennes, ce cochon qui s'est échappé au sortir du wagon et qui se sauve du côté de la Vilaine. On lui court derrière. Il y a Marcel Modet, un collègue qui l'accompagne ce jour-là, on l'attrape par la queue, mais plus on tire, plus il descend vers l'eau. Tout le monde glisse, manque de tomber dans la flotte, et voilà le cochon à l'eau, qui nage, non donnant, et puis qui s'assoit au milieu de la Vilaine, comme ça, sur une butte, un banc de sable, sur son derrière, qui se retourne et nous regarde avec ses petits yeux intelligents. Puis il repart vers la berge d'en face, il fonce dans le linge d'une lavandière, il piétine tout le linge de la bonne femme, qui braille. Madeleine se dit qu'on ne peut pas rester bras ballants, s'en va appeler les pompiers, court autant qu'elle peut, le temps qu'ils arrivent, le cochon est rendu dans le lotissement en face. Les gens sont sortis de chez eux, s'interpellent, lèvent les bras, font des barrages, tout le monde fait la chasse au cochon. On a fini par l'avoir, on a payé un coup aux pompiers. Ils travaillent dur, Pierre et Madeleine, mais ils aiment se faire plaisir aussi. Après le boulot, ils partent en virée à Saint-Malo, vont au resto, traînent jusque tard le soir, elle à son bras, sautillante, toujours bavarde et vive, une petite hirondelle. Parfois, ils vont à la mer pique-niquer avec des amis, se faire bronzer, nager pas trop. Madeleine a eu au début des années 60 un superbe maillot de pièces crème qu'on trouvait exagérément couvrant aujourd'hui, mais qui à l'époque lui a valu d'être critiquée ouvertement. Un jour à Saint-Briac, malgré sa silhouette de sirène, elle a dû remballer ses affaires vite fait et disparaître, huée presque. Années 70, un vieux monde s'efface. Comme pour le père, le progrès les a rattrapés. Les coopératives sont apparues, organisées, rentables, ruinant doucement le commerce des indépendants. Ça a été très dur. La belle-mère est décédée, Madeleine a dit « j'arrête, je reprends le bar au Champicot ». Sa petite fille, Laurence, avait 10 ans passé. Elle a fait des travaux, c'était après 1975. Pierre se faisait tirer l'oreille, elle a tout pris en main. Le modeste bistrot qui servait le ballon de rouge sur le Formica est devenu un endroit à la mode, un incontournable. Elle a choisi du neuf, du moderne, de la couleur, des parquets et des banquettes, et elle a fait installer des jeux électroniques en location, des flippers clignotants, super sonores, remplacés souvent pour que les gens ne se lassent pas, a acheté un baby clinquant super lourd, ça tournait du feu de Dieu, on venait de loin, une vraie manne. Derrière son bar, Madeleine rayonnait. J'étais bien chez moi, j'avais l'impression d'être en vacances, c'était plein de jeunes, ils me tutoyaient, j'étais très à l'aise, j'aimais bien les jeunes. Ils me racontaient leurs petites histoires, leurs peines de cœur, le samedi soir avant de partir en boîte. Je les consolais, ils me faisaient confiance, je leur faisais confiance. Ils avaient 20 ans, c'était presque mes enfants. Pour eux, elle avait acheté un jukebox. Elle adorait les chansons, se faisait présenter les nouveautés par un client proche qui vendait des disques. Puis, dans ces moments-là, invitait sans façon ses habitués à venir écouter, choisir avec elle, accouder au bar, laisser passer son cœur. Pierre Bachelet, Richard Cocciant, Un coup de soleil, Cabrel, L'encre de tes yeux, Charlie Licouture pour les plus intellos, Julio Iglesias pour les femmes, Je n'ai pas changé. Un Brassens ou deux, obligé. Il y avait toujours de la musique toute la journée. Pierre était par là en soirée, mais il ne se montrait pas, n'était pas à son aise avec le monde. Et puis, il ne voulait pas boire, il bricolait dans la cuisine derrière, regardait la télévision d'un œil distrait, gardait une oreille sur la salle à tout hasard, des fois que Madeleine serait embêtée, des fois qu'elle aurait besoin de lui. Mais c'était rare, elle avait une telle autorité sur son monde. Souvent, elle disait d'ailleurs « Non Pierre, je préfère que tu restes là, tu comprends, c'est mieux que je règle ça toute seule. On s'arrange mieux avec une femme, les hommes entre eux. » Des coqs qui se montent la tête. Ne va pas donner de hardiesse plus qu'il n'en faut. Reste donc, je t'appelle si j'ai besoin. Il est arrivé qu'elle ait peur, qu'elle ferme son bar plus tôt, que des voitures tournent sur le parking, tout feu éteint, qu'un ivrogne contrarié ronfle toute la nuit dans la cour, que dans la voix de l'autre, lourde de menaces rentrées, elle sente le danger lui souffler sur la figure. Mais jamais elle ne s'est démontée. Toujours elle a gardé ce ton égal. Elle a dit les choses avec netteté, sûre de son fait. Une seule fois, on a appelé les gendarmes. Elle avait refusé à boire et les amis dans la salle n'avaient pas suffi à dissuader l'homme qui était revenu pour casser. C'était souvent pourtant qu'elle refusait de servir ceux qui avaient trop bu. Elle sentait quand ils étaient chauds. Tout de suite, elle avait le nez. Ramassée dans les mêmes coins, face congestionnée, pesant mollement contre le bar, avec cette façon d'un mouvement ralenti de la tête de provoquer le monde autour. « Non, néné !» Je te remets pas un pastis, t'as assez bu comme ça, ça suffit, t'es énervé, je vois bien, tu tapes sur mon bar, tu veux le casser, c'est ça? Je sais que tu mets du bordel chez les autres, alors maintenant tu rentres chez toi. » L'autre partait, fâché, restait 6 mois sans venir. Les gendarmes appréciaient Madeleine pour cette intransigeance avec la colle. C'était elle, la patronne, elle ne craignait personne. Elle ne buvait jamais, question de principe, sinon elle aurait dû trinquer à chaque anniversaire. Les jeunes prenaient un diabolo ou un panaché. Les hommes un Ricard, les femmes un Martini ou un Kir. On venait pour la bonne ambiance. On venait aussi rien que pour elle, la voir, l'approcher. Certains faisaient semblant d'être copains avec Pierre. C'est qu'elle était fameusement belle, la femme à Pierre. Drôle aussi, et gaie tous les jours. Mais elle savait les remettre à leur place. « Et si vous ne comprenez pas, je vous préviens, j'appelle. » Et elle lançait un regard vers l'arrière-cuisine, lourd de sous-entendus, alors que Pierre était sur la route avec ses cochons. Car elle servait dès le matin, juste le temps de faire son lit. Elle fermait après minuit, le temps d'un peu de ménage. Elle dormirait 5 heures, c'était bien suffisant. Il fallait qu'elle lise chaque soir, quoi qu'il arrive. Pierre ronchonnait. « Tu me réveilles avec ta lumière. » Elle rétorquait. « T'as déjà dormi, de quoi te plains-tu ? » Elle faisait mine d'éteindre, ne bougeait plus, attendait qu'il ronfle, sortait sa lampe torche. Souvent, Pierre tâtonnait dans le noir, cherchait la main de Madeleine. Il savait trouver un livre au bout. Elle rusait, changeait de main, ça finissait en rire. Il savait qu'il ne l'emporterait pas. Elle était heureuse dans cette vie-là. Elle était au sommet de sa vie, en pleine forme. À 54 ans, sans prévenir, j'ai fait un malaise cardiaque grave. Depuis, j'ai eu 2 AVC. Il a fallu arrêter le bar. Ça a été très dur. Je ne savais plus quoi faire de moi. On avait un peu d'argent, on s'est mis à voyager avec Pierre, le Portugal, beaucoup. Et on allait danser. Mon mari était très bon danseur. On se connaissait par cœur, on ne formait plus qu'un, on était tout contre à se respirer et à tourner ensemble. Ça pouvait durer des heures. On allait à Sens le jeudi et à Mordel parce qu'il y avait de la danse bretonne, moi j'aimais ça. Passé 60 ans, on avait commencé à se connaître autrement, lui et moi. Au bout d'une vie presque, parce qu'on avait le temps peut-être, ou que j'avais failli y passer. On se tenait par la main, on était toujours à vouloir se toucher. J'aimais me blottir, il m'embrassait sur le front, j'étais juste à la bonne hauteur. J'étais souvent grimpée sur ses genoux, les gens trouvaient ça drôle, on a vécu ça jusqu'au bout. Et puis c'est lui qui est tombé malade. Il est parti d'un coup. 15 jours avant, on était encore à danser.